On ne doit pas prescrire et donner sans tester le produit.
Okay.
Parce que l'organisme, le corps, il est beaucoup plus intelligent que le médecin et le thérapeute. L'homéopathie agit parce que l'eau emprunte certaines zones et on fait des formes. On s'aperçoit que, par exemple, la mémoire de ces formes permet de soigner les gens. Plus tu tapes sur le corps, l'énergétique de ce corps, plus il va hurler.
Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram et d'ici là, bonne écoute. Vous allez aujourd'hui écouter l'épisode avec le docteur Jean Marchandise pour retrouver son actualité et les formations autour de la DSTH et bien son site internet dsth.ch. Eh bien, je suis aujourd'hui à Saint-Flour, dans le Cantal. J'ai énormément de chance et de plaisir à être avec mon ami Jean Marchandise. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci de m'accueillir.
C'est un plaisir. C'est moi qui suis honoré de ta présence, plus que le contraire, parce que j'aurais dû être là depuis bien longtemps. On aurait dû être ensemble depuis bien longtemps, et c'est moi qui suis un petit peu en retard.
Eh bien, écoute, c'est le bon moment.
Oui.
Je suis donc avec docteur Jean Marchandise, un jeune retraité, on peut dire ça ?
Tout à fait.
Bien, j'hésitais à te présenter, je vais te laisser faire. Qui es-tu, Jean Marchandise ?
Alors, Jean Marchandise, 70 ans, j'ai fait mes études à Cabon, Ferron, et donc je suis devenu médecin généraliste dans le Cantal. Et voilà, donc j'ai eu la chance d'être formé par des grands maîtres et de l'ostéopathie et de l'homéopathie. En homéopathie, j'ai été formé par un monsieur qui s'appelle Sen, S-E-2-N,
Dominique.
À Lausanne.
Dominique Sen, hein,
Dominique.
C'est ça. Qui a écrit un super bouquin.
Voilà, qui s'appelle La balance tropique.
La balance tropique.
Voilà. C'est un bouquin où il explique quelque chose d'essentiel qui s'appelle la théorie des barrières. Ensuite, j'ai été formé par un autre homéopathe qui s'appelait Courbon à Lyon, qui m'a formé énormément et qui m'a montré l'homéopathie à sa manière, puisque lui-même était un élève de Sen. Et puis, j'ai été formé surtout par des ostéopathes et un ostéopathe aussi fou que moi qui s'appelait Maurice Poyer.
Dont tu as préfacé le livre.
Et voilà.
C'est difficile à trouver comme bouquin, mais en tout cas, tu as préfacé ce livre. Tu avais quel âge quand tu as préfacé le livre de Maurice ?
J'ai fait Poyer en 84, 85, 86, 87. Et donc, il a commencé à écrire son bouquin à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est à peu près dans cette période où j'ai fait une bonne partie du livre de Maurice. Et surtout la préface.
Alors une question que je ne t'ai jamais posée, puisque ça fait maintenant longtemps, peut-être une petite dizaine d'années qu'on se connaît. Pourquoi il a demandé à un médecin généraliste, homéopathe, de préfacer son livre d'ostéo ?
Parce que j'étais un des seuls à le supporter.
Ah, c'est une très bonne réponse.
Ah, ce n'est pas méchant. Hein. C'était un génie parmi les génies. Et donc c'est vrai que j'ai eu une chance phénoménale, c'est que j'ai supporté Maurice Poyer, et Maurice Poyer m'a supporté moi aussi. On s'est supporté plus ou moins, les deux. Et c'est vrai que c'était pas toujours facile. On était le siècle dernier. Hein. Les gens qui faisaient de l'ostéopathie étaient assez rares. Et donc j'ai été formé par Maurice, mais aussi par, comment il s'appelait déjà, Brunel.
André Brunel.
André Brunel.
Et donc, on parlait de la préface du livre de Poyer.
Oui.
Toi aussi, tu as écrit des bouquins. Alors, pas toujours sous ton nom de Jean Marchandise, mais aussi le docteur Antoine Florin.
Voilà.
Tu peux nous parler un peu de...
À l'âge de 40 ans. Donc, je suis né en 54. 40 ans plus... Dans 94, j'ai écrit mon premier livre sur l'homéopathie, qui devait s'appeler la désintoxine homéopathie, mais on l'appelait homéopathie.
Ok, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler un peu moins d'ostéopathie que d'habitude sur ce podcast, mais un peu plus du lien de l'homéopathie en plus que tu pratiques, oui. Que tu as pratiqué. Et ce que j'aime chez toi, c'est ta vision de l'homéopathie étant déjà médecin et ostéo, ce qui nous ouvre le champ un peu des possibles et de tenter de comprendre cette approche. Donc je vais te poser quand même pas mal de questions préparées. Je remercie ton fils Étienne qui est ici à côté de nous, qui m'a aidé à préparer les questions, qui sont toutes surprises pour toi. Alors on va rentrer directement dans le sujet. Jean, parle-moi un petit peu de ce qu'est la DSTH, ce que tu pratiques. Déjà, ça veut dire quoi ces quatre lettres ?
Alors, désintoxine homéopathie. J'étais un peu déçu parce que je ne l'avais pas inventé. C'est un des élèves qui a fait mes cours. C'est un nom que les gens l'écoutent une fois, ils s'en rappellent toute leur vie. La désintoxination par l'homéopathie.
Alors, c'est quoi la différence entre la désintoxination et la désintoxication, par exemple,
pour un profane ? Alors, la désintoxication, le toxique et le toxine, il y a une petite différence. La toxine, c'est quelque chose qui est, on va dire, par exemple, une toxine tétanique, c'est la bactérie du tétanos qui va sécréter une toxine. Et un toxique, c'est plutôt un toxique. Et donc, la toxine, c'est plus difficile à prouver. Donc, il vaut mieux dire désintoxination que désintoxication.
Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, comment un toxique, comment le glucose, par exemple, peut être un toxique et qu'est-ce que ça fait en tant que toxine dans le corps ? Je parle du glucose, c'est très contemporain, les gens mangent beaucoup de sucre, c'est assez simple.
L'intoxication, on ne peut pas faire une prise de sang et regarder s'il y en a trop, parce que le glucose, il y en a partout, mis à part de la glycémie. Alors, l'intoxication et l'intoxication, c'est presque pareil, mais pas pareil. Et donc, on doit nettoyer l'organisme qui est imprégné d'intoxination.
Si je comprends bien, c'est, par exemple, on va ingérer du sucre. Si j'arrive à l'éliminer, tout va bien. Si je ne l'élimine pas, ça devient un toxique dans lequel, avec lequel mon corps garde des toxines. C'est ça l'idée ?
C'est certainement l'idée, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Autrefois, on lisait des livres, ça s'appelle « Le mal du sucre ». Entre parenthèses, il n'y a pas de toxique qui a tué le plus de monde que ça dans le monde.
Ok.
Et donc, c'était un message qui était très difficile à faire passer à tout le monde, à monsieur tout le monde et à même la médecine, les allopathes. Quand tu bois un verre de coca, t'as pas l'impression de te tuer.
Oui, c'est une mort lente.
Quand tu bois. Donc c'est difficile de faire comprendre que le glucose, qui est un véritable toxique majeur, est capable de pouvoir donc tuer les gens et ça paraît à peu près quasiment impossible parce que tu prends pas quelqu'un boit un coca et hop, il tombe dans le coma tout de suite. C'est plus compliqué que ça.
Ok. Ce que j'aimerais cerner chez toi, c'est tiens, comment dans tout ce que tu connais, bah tiens, tu vas décider de prescrire de la cortisone, des antibiotiques pour des pathologies. Et puis, de temps en temps, tu vas devoir nettoyer grâce à ton homéopathie, avec une homéopathie issue de l'antibiotique, par exemple. Prenons ceci. Et comment tu fais ? Comment tu choisis ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ?
Alors, l'exemple, on teste. Le diagnostic d'une intoxination se base sur plusieurs événements. L'étude des symptômes, la sémiologie. On va prendre un cas. Hier, je regardais la vidéo de M. Elmiger, qui est l'équivalent de marchandise, mais en Suisse, là-bas. Et qui était l'élève aussi de Seine. Et il parlait d'une maladie qui est pour lui abominable, qui s'appelle la rougeole, et qui on a bousillé une partie d'après lui de l'humanité parce qu'on a vacciné énormément les gens de cette maladie qui s'appelle morbillinum, le fameux ROR, rougeole, orion, rubéole.
Alors pourquoi il pense ça ?
Je parle de ça. Mais parce qu'il y a des symptômes. Moi, je pense depuis des années que la majorité des allergies, alors allergie, ça peut être l'asthme, ça peut être l'eczéma, ça peut être le nez qui coule, l'éternuement, tout ça, ce sont des symptômes dits d'allergie. Quand je me suis installé en 80 à Saint-Flour, il y avait à peu près, on va dire, 4 ou 5 % de la population européenne et américaine qui était allergique. Moi, j'étais devant, ma maman était allergique avec un asthmatique et malade et tout ça. Et donc, j'étais très proche de tout ça. Alors, on avait quand même donc 3, 4, 5 %, c'était pas énorme. Parce que maintenant, quand on regarde le nombre d'allergiques aux États-Unis et en France, il y en a 30 ou 40% de la population. Et on s'aperçoit donc que les symptômes que je viens de dire, tu as compris, la sémiologie, c'est le numéro 1 qui nous permet de trouver la cause de la maladie.
Ok. Si j'essaie de tout remettre un peu dans l'ordre, tu me dis qu'il y avait peu d'allergies avant, qu'il y a eu une vaccination de masse.
Majeure.
Et on pense que ce sont des effets secondaires. On pourrait appeler ça peut-être des nouvelles maladies. Tiens, on a créé des nouvelles maladies. Finalement, on choisit de ne plus mourir de certains virus, de la rougeole, mais de mourir plus vieux, d'allergies, d'asthme, de choses comme ça. C'est pas évident parce que il n'y a pas forcément d'études, c'est très empirique. Ce que tu me dis, c'est vraiment basé sur l'expérience du clinicien, de toi en l'occurrence.
Peut-être.
Maintenant, ce que j'aimerais cerner, c'est comment cette personne, quand elle a eu le vaccin de la rougeole, comment tu l'aides, toi, à détoxiner ? Et justement, qu'elle
quand
ne développe
on
pas...
connaît la cause d'une maladie, on donne la dilution homéopathique de la cause de la maladie. C'est M. Hahnemann, il y a 2 siècles, qui a trouvé ce qu'on appelle l'histoire de la médecine homéopathique. C'est on cherche le médicament qui s'appelle le si minimum. C'est-à-dire, on fait une répertorisation, on prend le Kent, on cherche. Ça dure des fois une demi-heure, une heure, 2 heures de travail sur le patient. Et on essaye de trouver le si minimum, c'est-à-dire le médicament qui va être la meilleure solution pour soigner les gens. C'est cette personne.
C'est la loi alors des similitudes, ça.
Ça, c'est la loi des similitudes. Et alors, il y a une autre loi que M. Hahnemann a écrite, qui s'appelle la loi de l'intoxination, c'est-à-dire le corps s'intoxine. Et quand on donne un médicament, quand on donne un produit toxique à quelqu'un, on va donner la dilution homéopathique de ce produit pour le nettoyer et pour le soigner. Donc quand quelqu'un qui arrive avec une allergie, qu'elle soit saisonnière, qu'elle soit permanente, qu'elle soit éternuement, qu'elle soit cutanée, qu'elle soit... Parce que les allergies, c'est énorme. Hein. Mm-hmm. C'est un symptôme qui s'aggrave chez des gens. Donc un nez qui coule, hop, lui, il a le pauvre, il sort dehors, paf, il a le nez qui coule. Eh bien, tu lui donnes la dilution homéopathique de la cause, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole, ROR.
C'est ça. C'est ce que tu...
Mélange ces produits avec d'autres. Par exemple, le pollen en dilution homéopathique. Comme ça, il y a des gens qui sont allergiques au pollen, il y a des gens qui sont allergiques à la poussière de maison. Blatta, les blattes, vous savez, qui bouffent la poussière de chez vous. On a monté des dilutions homéopathiques de blattes et donc on donne ça aux gens.
Donc ce qu'on fait, c'est pour synthétiser, et c'est ce qu'on d'ailleurs on peut trouver sur ton site internet, on peut commander des... Alors est-ce que ça s'appelle des florins ?
Des florins, oui,
voilà,
oui,
des florins. On peut commander des florins dans lesquels il y a des dilutions, des dérivés des toxiques, donc par exemple le ROR que tu as monté en dilution, en portant ça sur soi de manière cutanée ou proche, ça va réinformer le corps, qui lui-même après peut nettoyer... le ROR.
Tout à fait.
Une question, est-ce que ça permet d'avoir à la fois les effets bénéfiques du vaccin, s'il y en a, sans les effets secondaires, d'être à la fois vacciné et ensuite de nettoyer ?
Alors, est-ce qu'il faut...
Tu sais, le côté transformation de l'immunité...
Moi, j'ai vacciné bonne partie de ma vie.
C'est pour ça que je te demande
parce
à toi.
Mais oui, c'est vrai, tu as raison. C'est très important. Donc, quand on fait un ROR, on en fait un ou deux. quand tu donnes les dilutions après pour nettoyer, d'abord, est-ce qu'il y en a besoin ? Peut-être pas. Parce que les gens font ce qu'on appelle une auto-guérison. On peut leur taper dessus beaucoup et ils arrivent à s'en sortir. Et il y a des gens qui ont eu un ROR dans leur vie et qui toute leur vie seront allergiques, seront malheureux, seront... Mais quand on regarde, on est impressionné, quand on regarde les gens d'une autre société, parce que la société américaine, c'est une autre société, la société américaine vaccine et hyper vaccine. Normalement, un gosse de 20 ans va aller à l'armée, une femme ou un homme, il a au moins 3 ROR, si ce n'est pas 5. Et donc, il faut comprendre, plus tu tapes sur le corps, l'énergétique de ce corps, plus il va hurler et devenir malade.
Bien sûr, mais prenons, alors c'est ce que je voulais te demander, prenons l'exemple de l'hépatite B. Une hépatite B en Afrique, ça peut être mortel, et je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ou le procès des vaccinations, hein, ce n'est pas le lieu du tout. C'est essayer de comprendre au mieux et d'aider des gens qui peuvent avoir des problèmes. Le vaccin contre l'hépatite B peut peut-être sauver la vie d'un enfant en Afrique, admettons. Mais si derrière l'homéopathie que tu proposes peut dans un deuxième temps lui éviter des effets secondaires, c'est quand même une révolution tout ça.
Ah, mais je pense que c'est une révolution. L'homéopathie, c'est une révolution. La mémoire de l'eau, c'est une révolution. L'explication quantique de l'eau quantique qui explique ça, c'est une révolution. Quand j'ai acheté il y a 5 ans ou 6 ans le livre de monsieur Marc Henry avec un Y, qui s'appelle L'eau et la physique quantique, ça a changé ma vie. Étant vieux, j'ai pris toutes les pages de son livre, je l'ai mis en A3 et je l'ai lu ou 3 fois, 4 fois, et j'en ai acheté au moins 3 ou 4 pour être sûr de ne pas la perdre.
Okay.
Parce que ce livre est princeps, à mes yeux. Et il m'a donné un avis, il m'a dit, ben voilà, pour comment ça c'est que ça marche ? Parce que la physique quantique explique les choses que l'on ne voit pas. Ton corps, il a une aura, un aura, et cette aura, on ne la voit pas. C'est emmerdant.
Ouais, c'est les sujets de demain à démontrer, parce que ce n'est pas évident de...
Elles sont démontrées depuis longtemps. À mes yeux, elles sont démontrées depuis longtemps. Et c'est ce que dit Henri. Regarde les vidéos de Henri. Il y a des fois 2 ou 3 heures de vidéos exceptionnelles qui expliquent et qui essayent de donner un message beaucoup plus cool que ça puisse paraître.
Hier, je te faisais la réflexion de quelque chose que je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps. On vit dans un monde fermé et finalement, on boit la même eau que les dinosaures.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Et je me suis aperçu de ça il n'y a pas longtemps avec mes enfants qui jouent aux dinosaures, tu sais, à la maison. Bon, c'est une parenthèse. On va revenir un petit peu sur...
On a la même quantité d'eau partout. Il n'y a pas une goutte d'eau qui s'en va ailleurs.
Exactement.
Et c'est toujours impressionnant.
Ok.
C'est la cause première, c'est l'explication numéro un de la mémoire de l'eau. Pourquoi ? Quand tu fais de la dilution homéopathique, on fait deux choses quand on fait de l'homéopathie. On dilue et on dynamise. Dynamiser, c'est touiller. On touille tout ça à chaque fois qu'on dilue. Et puis la dynamisation et la dilution. Qu'est-ce que c'est que la dilution ?
Eh bien justement, c'est une de mes questions. La différence entre la dilution hahnemannienne et korsakovienne, si tu veux...
En fait, on s'en fout. mais t'as raison. La question, elle, si tu veux, mais bon, c'est qu'elle soit hahnemannienne ou korsakovienne, on s'en fout complètement. C'est la manière dont on l'a présentée. Les gens qui travaillent en France, on ne fait que des hahnemanniennes.
Voilà.
Devant la pharmacienne, ne vend pas de dilution korsakovienne parce que c'est l'habitude et c'est comme ça. Alors qu'en Suisse, monsieur Elmiger, pardon, qui était l'élève de Seine, lui, on ne lui a donné que des korsakoviennes.
Ok.
Donc il a travaillé toute sa vie avec des korsakoviennes. Mais en fait, on s'en fout. C'est le message qui est important. C'est pas la manière de le fabriquer. C'est le message.
C'est l'information.
Quand tu dilues, tu prends un produit avec un toxique, par exemple rougeole, morbillidum. Il y a une forme particulière. Quand tu dilues, c'est comme si tu prenais une pince, tu enlèves le toxique et tu mets de l'eau à la place. Et bien, à chaque fois que tu mets de l'eau à la place du toxique, il y a une eau spécifique qui se met à la place.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que au lieu de mettre de la ortho, il n'y a que de la para qui se met à la place. Ça veut dire que la forme du toxique est en mémoire de l'eau. C'est ça la définition de la mémoire de l'eau.
Et c'est ce qui fait la similitude et que...
Et c'est ce qui donne l'autorisation d'affirmer que l'homéopathie, c'est la médecine de l'eau et de la mémoire de l'eau.
Ok.
Parce que d'après M. Marc-Henri, moi je ne suis pas du tout... tu sais, j'ai déprimé un peu quand je me suis aperçu que je ne connaissais rien du tout à tout ce qui était physique quantique. Hein. La physique quantique, déjà, je me suis dit, je n'y arriverai jamais, mais bon, peu importe. Il dit, quand tu enlèves la molécule d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Un truc qui est impossible dans la vie, c'est-à-dire le vide. D'après lui, c'est ça la réponse.
Okay.
Eh bien, au lieu de mettre du vide, tu mets une eau spécifique, la bara ou la ortho, on s'en fout, qui a une forme particulière. Mais quelle forme ? La forme de la rougeole.
Intéressant. Et donc, tu es plus, tu as travaillé plutôt avec des dilutions hahnemanniennes qu'on trouve en pharmacie. Alors, quand c'est 9CH, hein, c'est ça, c'est le H de Hahnemann, quand on prend...
Ouais. Mais bon, en fait, j'ai dû travailler autant avec des hahnemanniens qu'avec des corsacoviennes. Parce que, une fois, je suis parti en Suisse et j'ai rempli mon coffre avec des dilutions des grands laboratoires en Suisse, Gamma, Schmidt-Nagel, qui sont des gros laboratoires, merveilleux laboratoires, qui existent encore en Suisse et qui n'ont pas été tués par Boiron. Et après, il y avait autant de hahnemanniennes que de corsacoviennes que d'hahnemanniennes, d'accord ?
Bien sûr.
Et donc ça, en fait, c'est pas du tout un problème. Qu'est-ce qu'on en fait celui-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le dilue. On monte les dilutions. Dans les gris-gris à marchandises qui s'appellent les florins, on met de l'eau avec des dilutions homéopathiques dedans, multiples, qui montent de 9, on va dire de 12, allez, jusqu'à 300.
Alors c'était
ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on voit le tube qui s'appelle cortisone, il n'y a plus de cortisone dedans.
C'était ma question. La spécificité de ce que tu as amené, c'est de proposer à l'individu des dilutions, mais sous plusieurs formes. C'est-à-dire que tu vas donner, c'est ça, du 3, du 5, du 7, du 9, du 12.
Et voilà. Et l'organisme choisit la dilution dont il a besoin.
Tu vas le donner en même temps. Le patient va porter sur lui différents niveaux de messages et le corps va choisir, hein, c'est ça.
Voilà. C'est comme quand on est... en train d'écouter les ondes sur... autrefois, on écoutait les flics la nuit là, pour savoir...
Sur les postes radio.
Les postes radio. Et donc, quand on fait... On porte un florin sur soi, en fait, l'organisme va, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, va passer son temps à scanner les longueurs d'ondes qui sont les émissions d'ondes de type... toxique.
C'est pour moi, c'est ça la plus-value, si je peux me permettre, que tu as amené, et dont je suis très reconnaissant, que tu as amené à l'homéopathie. On en a parlé avec Danny Hens déjà sur ce podcast, et c'est encore plus intéressant aujourd'hui de l'avoir dans ta voix. C'est de proposer au patient un message lui permettant de s'auto-guérir. Mais ce n'est pas un message, c'est justement... différents messages à des moments où le corps va le prendre le message le plus approprié. C'est un peu ce que tu nous dis, si je comprends bien.
La distance d'action de nos gris-gris florins, là, c'est à peu près 1 ou 2 cm ou 3 cm. Donc on demande aux gens soit de le mettre dans la poche de la chemise ou de le mettre directement sur la peau et d'attendre que ça marche.
Et que ça, ok.
Parce que quand on teste un produit, l'information ne dure que 17 ou 18 secondes.
Alors,
parce que quand après, ton corps a dit « Ah, très bien, il faut que je nettoie cette morbidome, 25 000 CH, très bien, c'est l'heure. » Et dans le florin, il y a le 25 000 CH.
Ok.
Et il va faire son temps, et quand tu restes au crâne et tu attends et tu testes les gens, et tu passes ton temps, t'attends, et tu dis « Il est toujours de travers, il ne va pas bien. » On voit très bien que les témoins crâniens ou les témoins de dermagie réflexe, les témoins énergétiques montrent que l'organisme ne travaille pas. Et puis tout d'un coup, 10 minutes, 10 ans, 5 jours, 3 jours, un certain temps, l'organisme va se remettre et dire « Ah, ça y est, je suis prêt à travailler ».
Alors, c'était ma question, puisque
c'est ça, l'intérêt.
La première fois que j'en ai entendu parler, je suis resté très, très sceptique. Je me suis dit, bah, je vais voir. Et toi, tu as été élève de Courbon à Lyon, qui était élève de Géricault lui-même. Et les dermagies...
C'est lui qui a écrit la préface de mon livre, Courbon.
Oui, tout à fait. Voilà. Et les dermalgies réflexes peuvent signer un produit homéopathique. Et c'est quelque chose qui m'a convaincu, enfin en tout cas qui m'a amené un peu d'éléments pour me dire, tiens, marchandise, peut-être qu'il ne dit pas que des bêtises.
Les dermalgies réflexes sont intéressantes.
Comment?
Mais bon,
voilà. Tu peux nous en parler un petit peu de ces tests.
Géricault, Monsieur Géricault, c'était celui qui avait dessiné et donné une relation avec la colonne vertébrale, dessiné les différentes formes de ce qu'on appelle les dermagies réflexes thoraco-abdominales antérieures et postérieures. Moi, j'ai travaillé qu'avec ceux qui étaient deux dans la face antérieure. Et je me souviens, un jour, j'étais avec Courbon, qui m'apprenait ça et qui m'apprenait que j'ai appris l'acupuncture avec lui pendant des années. J'ai adoré l'acupuncture jusqu'au jour où je me suis dit que j'étais bon d'arrêter une des techniques. Je faisais 3 ou 4 techniques en même temps et j'allais devenir mauvais sur toutes. Donc il fallait bien que j'arrive à en enlever une. Et donc j'ai enlevé l'acupuncture. Mais c'était merveilleux. Courbon m'avait montré 2 choses exceptionnelles. Le diagnostic au niveau des pouches, des artères radiales, diagnostic et thérapeutique après. Mais surtout, de regarder, à travailler et de tester les dermagies réflexes. À quoi ça servait? On pesait une aiguille, on choisissait avec les poux une aiguille et on perçait, on faisait un point d'acupuncture ou une application du doigt dessus ou peu importe, et donc une action thérapeutique. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lui, il avait compris, et ça, c'était impressionnant. On vérifiait immédiatement que les dermagies réflexes étaient améliorées.
On peut vérifier avec les dermagies réflexes les dilutions homéo que tu proposes?
Alors, oui et non. Avec Courbon, on faisait les aiguilles. Moi, j'ai proposé... Courbon m'avait montré que la dermagie réflexe, celle de la dermagie réflexe d'un organe qui s'appelle le pancréas, était morcelée. C'est-à-dire que quand on palpait la dermagie réflexe de cet organe, il y avait plusieurs petites billes à l'intérieur. Alors que les autres paraissaient être unitaires, un seul sac. Alors, j'ai eu de la chance. J'ai testé des dermagies réflexes chez les autres pendant des années et j'ai trouvé des gens qui avaient des dermagies réflexes d'exception, qui avaient une forme et un test facile. Et j'ai démontré que les dermagies réflexes du pancréas étaient la preuve de l'intoxication de certains toxiques et pas d'autres. Alors les anesthésies générales, les anesthésies dentaires, l'adrénaline, l'ocytocine, l'hormone de l'accouchement, les vaccins tétanos polio, et on a retrouvé des petites billes dans ces dermagies réflexes pancréatiques spécifiques pour celle-là. Et pour moi, qui pas sorti de l'allopathie, où j'avais besoin de la preuve, un, que l'homéopathie marche, deux, qu'il y avait des témoins de cette efficacité, ben moi, ça a été la révolution dans ma vie.
Ouais, bien sûr, ah, bien sûr. Et c'est tout l'intérêt de ce qui m'a amené à te rencontrer, c'était d'avoir... parce qu'une une dermalgie, c'est une douleur au niveau du derme. Le patient, cette douleur est présente. Et quand on pose le petit sachet sur le sternum et que la douleur disparaît immédiatement, ça laisse pantois, oui. C'est sûr. Et surtout quand on cherche à améliorer la vie d'un patient. Alors, ce n'est pas évidemment une étude... Qui montre ça, mais ça fait réfléchir. Et c'est ce que j'apprécie. Grande chance on a eu d'avoir Jericho, finalement.
Ah, bien sûr.
Pour amener tout ça.
J'ai jamais connu Jericho. Mais bon, Courbon, c'était...
Non, mais tu as connu Daniel Martinez, qui est passé sur ce podcast.
Absolument.
Et qui a travaillé avec Jericho.
Avec Jericho et avec Courbon, surtout.
Avec Courbon, Daniel, qu'on salue. Un autre sujet, tiens, que j'aime bien, que tu abordes et qui est toujours très fascinant, c'est ta vision de l'arthrose. Tu en parlais encore cet après-midi dans ton cours, j'ai eu la chance d'assister. Qu'est-ce que tu as fait sur tes patients arthrosiques dans ta carrière de médecin ?
D'abord, je les ai nettoyés. C'est-à-dire j'ai essayé de nettoyer leur vaccination, leur anesthésie générale. L'arthrose, ce n'est pas que un truc. Je suis maçon, je suis dehors, aux intempéries, je travaille sur le ciment, j'ai une colonne lombaire complètement bousillée parce que j'ai été penché en avant pendant ma vie. Il y a cette arthrose-là. Mais il y a aussi l'arthrose de beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont une arthrose monstrueuse, au niveau des radios, entre autres. Et après, en fait, on leur dit, vous avez mal au dos ? Pas vraiment. En fait, l'arthrose et la douleur, des fois, il fallait séparer les choses. J'ai donné deux grands médicaments. Parce que j'étais l'élève aussi d'un gars qui m'avait formé en un week-end, qui s'appelait Monsieur Picard, qui a écrit le livre « Vaincre l'arthrose ». Il a montré que quand on donne des oligo-éléments bien choisis, intelligemment, avec une homéopathie, spécifiques, os total, synovial, cartilage, ligament, que l'on trouve dans toutes les pharmacies du monde entier, hein, c'est ce qu'on appelle l'organothérapie. Pourquoi os total, cartilage, ligament ? Parce que ça, c'est les composants des articulations et tout ce qui entoure l'articulation. Et donc, il donne des dilutions homéopathiques de ça et des oligo-éléments. Et le deuxième médicament, c'est le collagène. Le collagène, c'est un des constituants des tissus solides et élastiques du corps. Ce sont des pièces qui permettent à ta peau de tenir le coup, avoir des os de qualité, avoir des tendons de qualité. Et ben, j'ai donné du collagène de vache et je donnais du collagène et des oligonames pendant des mois et des mois et des mois et des années avec des radiographies qui s'amélioraient.
Tu nous parles des oligo-éléments, ça me renvoie à une question. Tu parles dans ton cours de l'apport des oligo-éléments et notamment du docteur Ménétrier.
Tout à fait.
La fameuse médecine des fonctions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu brièvement, prends 5 minutes, le temps que tu veux, pour nous dire à quel point, pour toi, l'apport des oligo-éléments, ce qui revient à dire qu'il faut quand même bien manger, puisqu'ils sont quand même présents dans l'alimentation normalement, si on ne se nourrit pas trop mal. Mmh. Mais quels peuvent être les manques et comment tu l'utilises en complément de l'ostéopathie et de l'homéopathie, tiens.
Alors, les oligo-éléments, c'est des métaux en dilution homéopathique qui permettent ce qu'on appelle d'être catalyseur. C'est-à-dire, une catalyse, un tennisman devient très bon et puis tout d'un coup, son entraîneur s'en va et de ce coup, on regarde la télévision, ah, il joue plus bien. Et alors, on regarde, ah oui, le catalyseur de ce tennisman est parti et lorsqu'il revenait, tout d'un coup, le tennisman, ça, c'est un catalyseur.
C'est-à-dire que par sa présence, il change les choses.
Simplement le fait. C'est pas lui qui joue, hein, mais le tennisman a besoin de sa présence. Et le fait d'être présent lui permet l'efficacité.
C'est le rôle de l'oligo-élément.
L'oligo-élément, c'est ça. Un oligo-élément, c'est entre l'homéopathie et l'allopathie.
Tu as créé un outil qui est une forme d'anamnèse pour comprendre et bien prescrire les oligo-éléments. Et très, très, très bel outil, en tout cas, qui peut permettre à des gens qui ont des problématiques, qui ont du mal à se lever le matin, qui ont des coups de pompe en lien avec l'alimentation, qui le soir sont très fatigués alors qu'il est 9h du soir. Et c'est assez intéressant. Donc, j'invite vraiment les gens à venir voir ce que tu fais là-dessus. Encore une fois, c'est une autre vision pour ceux qui ne trouvent pas de solution. Et encore une fois, je te remercie pour ça. J'en parlais avec ton fils tout à l'heure. Je trouve que aujourd'hui, la médecine tente de se réconcilier entre elles dans les différentes branches. Et ce genre d'outil que tu proposes, eh ben, permet ça, puisqu'on a tous, on tente tous des choses, mais quand nos enfants sont malades, on cherche des solutions. Et voilà. Je tenais à dire ça. Je vais enchaîner. On va parler encore une fois de toi. Qu'est-ce que tu penses que tu as amené, toi, Jean Marchandise ? Alors, ça fait un peu fin de carrière, la question, mais qu'est-ce que tu as amené le plus à la médecine ou à l'homéopathie ? Quelle est la patte que tu nous laisses aujourd'hui ? Alors,
je pense que ce que j'ai amené, c'est l'acceptation de ce qu'on appelle un test énergétique. On ne doit pas prescrire et donner sans tester le produit.
Okay.
Parce que l'organisme, le corps, il est beaucoup plus intelligent que le médecin et le thérapeute.
La vérité, s'il y en a une, elle vient du patient.
Le test énergétique, c'est une chose que les allopathes détestent parce qu'il y a une chose qui se passe. Anne Miguer souvent en parle dans sa vidéo. À partir du moment où tu es testeur, ben tu es acteur.
Comment expliquer ça à une jeune personne qui est en terminale ou qui commence ses études d'ostéopathie, de médecine, de manière simple ?
Alors d'abord, on doit l'accepter à partir du moment où c'est évident. Quand tu mets tes mains sur quelqu'un, que le crâne est de travers, tu lui mets le produit et le crâne se repositionne immédiatement, on doit accepter la chose. On doit l'accepter.
Ouais.
Les dermagies réflexes disparaissent. Il faut l'accepter.
C'est le produit.
C'est le fait même de tester qui te permet d'affirmer ça. Dès que tu as quelqu'un qui devient testeur, eh bien les choses changent.
C'est un peu l'idée d'une question très philosophique. C'est est-ce qu'un arbre qui tombe dans une forêt fait du bruit si personne n'est là pour l'écouter ? Tu vois, s'il n'y a pas d'oreille autour, est-ce qu'il fait du bruit ?
Certainement qu'il fait du bruit aussi.
Mais en fait, je n'ai pas la réponse, moi.
Moi non plus. Hein. Mais tout est dirigé par ça. Quand on fait de la physique quantique, ouais, tu vois, moi, au fin fond du Cantal, j'étais obligé d'expliquer certaines choses. Et grâce à la physique quantique, on est arrivé à montrer aux gens qu'il y avait une physique quantique qui expliquait tout. Quand je teste une dermagie réflexe ou une ligne vers son mouvement et que quand je le corrige et que le corps dans sa totalité change et se modifie, il n'y a aucun nerf, aucun cerveau, aucun système allopathiquement reconnu qui marche.
Ouais, c'est intéressant.
Toutes les lois qu'on nous a apprises, la colonne vertébrale, les muscles, les trucs comme ça, c'est dépassé là. Parce qu'il y a une physique quantique. Quand on fait bouger tel truc à cet endroit-là, la physique quantique te dit que toutes ces informations vont dans le même sens, même de l'autre côté de la Terre.
Et tu penses que ça va être démontré dans quelques années,
depuis longtemps.
De manière... observé.
Mais on peut l'observer. Les gens à distance. Et c'est grâce à ça. C'est l'acceptation de ce genre de choses sera obligée.
Alors,
mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, il y a des gens qui ont besoin de garder la puissance de l'être humain et des autres. Mais bon, un jour ou l'autre, il faut bien s'apercevoir que soigner les gens à distance, tout le monde le fait. Même moi, en cours. Quand je fais un cours d'ostéopathie, la dernière journée, on traite les gens à distance.
Ouais, là, tu jettes un pavé dans la mare sur quelque chose que je ne connais pas du tout.
C'est pas grave.
Pas encore.
Ça marche. Et ça marche.
Ouais, okay.
Il y a des gens qui gagnent leur vie en faisant ça. Ils soignent les gens à distance.
Ok, ça mériterait un podcast entier, ça.
Ah oui. C'est ce qu'on appelle les ondes scalaires. Les ondes scalaires, par M. Tesla.
Ce que tu nous dis, c'est que la physique quantique va être la réponse de l'homéopathie.
Entre autres.
Est-ce que Jean Marchandis, tu serais pas né 200 ou 300 ans trop tôt?
Oui, mais bon, en fait, c'est pas grave. La problématique, c'est qu'il faudra que les... En fait, je n'ai pas envie trop de revendiquer quoi que ce soit, parce que bon, ça sert à rien. Maintenant, je vais écouter Metallica et avec mon fils aîné, et je préfère presque ça que de soigner les gens. Et donc, il faut pas. C'est vrai que j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai été hyper privilégié de la vie. Je suis pas mort, j'ai tenu le coup, j'ai eu une évolution et une capacité d'adaptation extraordinaire à des choses qui paraissaient anormales pour d'autres. Et c'est vrai que je plains les pauvres médecins de Saint-Flour qui m'ont accepté malheureusement et qui voyaient un nuluberlu en train de prescrire des petits sacs en plastique autour du cou et qui soignaient des gens pour des maladies qui étaient malheureusement, j'arrivais pas à les soigner autrement. Et donc c'est vrai que je suis un privilégié. Ils n'ont pas été trop jaloux de cette prise-là et les choses se sont vachement bien passées.
Alors, tu...
Malgré tout.
Justement, justement, une chose que tu m'as dit un jour, c'est que le tube d'arnica, alors déjà, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas? Mais en plus, on n'est pas obligé de prendre les granules d'arnica, il fonctionne une fois qu'il est dans la poche.
Ah oui.
Exactement comme n'importe quelle homéopathie, que l'homéopathie ne périme pas. Et je suis allé vérifier, absolument. Il y a une date de péremption sur les...
Oui, mais bon, sur c'est pas grave.
C'est un autre débat, mais voilà, les positionnements que tu as pu avoir et que j'ai entendus. Moi, je me fais la voix de celui qui écoute et qui se pose des questions. C'est pas évident pour nous de trouver de l'information, c'est pas évident de la sélectionner, tu vois. En tout cas, tu amènes un autre regard, une autre vision, et ça, c'est chouette. Je pense qu'on a bien cerné ton positionnement, ce que tu as amené. Avant de te poser les questions, parce qu'il y a un traditionnel petit jeu à la fin, histoire de rigoler, est-ce que tu penses qu'il y a un sujet qu'on aurait pu développer, que tu aimerais qu'on aborde, que j'ai pu oublier dans ce podcast?
Quand je fais un cours, je fais 4 séances de 3 jours. Et la première, qui était donc il y a un mois ou 2 mois, je ne me souviens plus, il y a un mois et demi, en fait, j'étais stressé comme pas possible. Parce que presque tout le cours, je le faisais pour la première fois de cette manière-là. Parce qu'il y a eu des informations qui ont changé la donne. Et on s'est aperçu que la vie existe dans le monde entier. Déjà, c'est l'histoire de l'eau, c'est évident. Bon, hein. Monsieur Marc-Henri a démontré ça depuis longtemps. La vie n'existe que parce que l'eau est dans le corps et qu'il y a des ondes de forme. Des formes qui ont des ondes, qui donnent des ondes, donc des informations. Et il y a un autre truc qui est arrivé qui s'appelle l'acceptation du fameux LUCA. C'est-à-dire qu'il y a une cellule qui a été originale, qui s'est doublée, dédoublée, et qui a commencé il y a quelques millions d'années, je ne me souviens plus jamais du nombre, on s'en fout complètement, quelques milliards d'années, qui s'est arrivée, et d'un côté qui a donné une évolution, une évolutivité, une capacité d'évoluer, qui a permis de s'apercevoir qu'on fait partie. Et pendant très longtemps, je m'emmerdais à écouter les gens qui disaient « Oh mon Dieu, c'est merveilleux, tu te rends compte, les plantes qui sont là, les arbres qui sont là, c'est merveilleux. » C'est vrai que c'est merveilleux, mais bon, il y avait un côté un peu, je dirais, primaire de cette lutte-là, et tout d'un coup, on s'aperçoit que, grâce à cette analyse, on s'aperçoit qu'on est très proche au niveau des chromosomes, au niveau de la physique, au niveau de, j'ai perdu le mot, de la fonction, on est très proche des plantes, on est très proche des champignons, on est très proche des animaux, on est très proche. On a commencé la vie grâce à l'acceptation qu'il y ait un végétal qui s'appelle l'éponge. Elle existe toujours. Il y a des gens qui ont un jour ont démontré que cette éponge est devenue une éponge animale et non pas végétale. Et puis, nous, on est, d'une certaine manière, une partie de notre corps, c'est une partie d'éponge.
L'éponge méditerranéenne, par exemple.
Méditerranéenne.
Que tu as en dilution, d'ailleurs.
Mais je n'arrive pas à avoir encore l'éponge qui est dans l'article qui démontre que on en a besoin. Ça nous permettra de soigner les gens avec une éponge tropicale. Plus que, mais bon, peu importe.
Ok. Super. Merci beaucoup.
Excuse-moi, je reviens sur ça.
Je t'en prie, vas-y.
Quand on s'aperçoit, par exemple, que l'homéopathie agit parce que l'eau emprunte certaines zones et on fait des formes, on s'aperçoit que, par exemple, la mémoire de ces formes permet de soigner les gens. Quand on a un HLA B27 et on a une spondylarthrite ankylosante, et on s'aperçoit que la forme des cellules du corps va nous permettre de comprendre comment ça se fait qu'on fasse des maladies auto-immunes. Et c'est cette forme-là qui est la même que ce qui gère les plantes qui sont autour de nous, les arbres, les plantes, les arbres à fleurs, les arbres sans fleurs, les champignons. On est entouré de champignons, etc. La grande difficulté, c'est que les gens qui accepteront ça n'arrivent pas à comprendre qu'on ne voit pas les ondes électromagnétiques qui sont autour. On ne les voit pas. Mais bon, ils sont là.
Ça me donne envie de te proposer un petit cas clinique sur les maladies. Un patient qui vient de voir demain et qui a une maladie auto-immune.
Ouais.
Il est en limite par les soins qui peuvent lui être proposés par l'équipe qui le soigne, qui le prend en charge, à la ville, admettons. Oui. Qu'est-ce que tu proposes, toi, sur les maladies auto-immunes ?
Alors, d'exemple, tu veux
une
maladie auto-immune qui est une spondylarthrite ankylosante HLA B27.
Parfait.
Alors, c'est une maladie qui atteint une articulation qui s'appelle la sacro-iliaque. Cette inflammation monte le long de la colonne et les gens, au bout de 20 ans ou 30 ans, sont complètement bloqués et n'arrivent même plus à respirer. Et bien, cette maladie est due à une maladie auto-immune. Pourquoi ? Parce que l'organisme, il est formé de cellules qui ont ce qu'on appelle un système de reconnaissance qui s'appelle le HLA, Human Leukocyte A. J'ai eu la chance d'être formé par des grands spécialistes de ça. Et on a démontré que les cellules du HLA B27 ressemblaient aux cellules de certaines bactéries, virus. Alors lesquelles ? Monsieur Montagnier, dans son truc, a parlé et avait testé avec les mêmes molécules. C'était marrant de voir que, sans se voir, on avait travaillé sur tout. Alors c'est le cytobégalovirus qui est un herpès virus, l'Epstein-Barr virus qui est un herpès virus. On va en prendre deux ou trois autres, le Klebsiella pneumoniae. Tout ça, c'est des bactéries et virus qui ont une forme particulière et manque de peau pour la personne qui a ça. Lorsqu'il fait une infection anti, par exemple, Klebsiella pneumoniae, il fait un anticorps anti-Klebsiella pneumoniae. Et qui, malheureusement, reconnaît non pas le Klebsiella pneumoniae, mais reconnaît la cellule de l'articulation sacro-iliaque du patient qui a cette pathologie. Il y a le début d'une inflammation, c'est quoi ? Un blocage d'un côté anticorps-antigène,
l'inflammation
et qui déclenche la maladie auto-immune par détournement
du
message.
Pour voir si j'ai bien compris, je vais tenter de synthétiser. Un patient, monsieur Dupont, il vient de voir avec une maladie auto-immune type spondylarthrite ankylosante qui s'est développée au niveau de ses sacro-iliaques.
Oui.
Tu vas lui donner, par la loi des similitudes dont tu revendiques, tu vas lui donner Klebsiella,
Voilà.
EBV, Epstein-Barr virus, CMV, cytomegalovirus, en dilution, en N, ce que tu appelles le N, c'est-à-dire du 3, du 5, du 7, du 9, du 12 CH, peut-être jusqu'à 300. Il porte ça sur lui, ça réinforme son organisme, et son organisme arrête de s'auto-attaquer, c'est ça, être auto-immun.
Et voilà, c'est ce qu'on appelle un détournement de message.
C'est un détournement de message.
Ah oui, c'est ça le problème.
Eh bien, question.
C'est merveilleux. Qu'il y a plus l'inflammation, le gars se retrouve avec une VS à 80 ou 100, et que si ça marche, ça marche, pas toujours malheureusement, mais bon, il y a de grandes chances que ça marche. Eh bien, l'inflammation diminue, la VS diminue, on revoit les gens 15 jours, 3 semaines, un mois après, et on reteste et on regarde, et on s'aperçoit qu'ils viennent avec une VS à 10 ou à 15, parce que l'inflammation a été arrêtée, par détournement du message. Et ça marche. C'est pas très intéressant. Sinon, l'homéopathie, hein, moi j'ai prescrit de la cortisone pendant une partie de ma vie. Et donc c'était très bien aussi. Hein. La spondylarthrite ankylosante, ça a des résultats fabuleux. Hein. On était toujours emmerdés de prendre des gens comme ça, de leur donner de la cortisone ou de la chimiothérapie. Vous avez vu, on est obligé de donner en maladie d'auto-immune une forme de chimiothérapie qui n'est pas toujours. Alors, je n'ai pas dit que c'était abominable, j'en ai prescrit moi-même pendant longtemps, mais j'ai préféré tester et donner des produits qui ne rendraient pas au moins malades mes patients, et puis que de donner plutôt de la chimio.
Est-ce qu'il peut y avoir, avec un florin, un patch que tu donnes avec des N à l'intérieur, des effets secondaires ? Est-ce qu'il y a des risques pour le patient ?
Alors, il y a peut-être des risques, mais quand même, c'est beaucoup moins basé sur les aggravations.
Quel type de risque il peut y avoir ? Je te demande ça parce que je n'ai jamais vu, ni entendu, mais j'ai une toute petite expérience, quelqu'un qui a eu une aggravation ou une problématique suite à avoir porté un florin. Mais je voulais ton expérience.
Ah ben, l'expérience montre qu'à l'intérieur du florin, il y a toutes les dilutions qu'il faut pour le patient. Si on est assez intelligent, performant, qu'on donne des dilutions qui sont assez hautes ou assez basses, eh bien on fait porter ça pendant un mois, trois semaines, un mois, un truc. Et comme ton expérience, en fait, il y a très peu d'aggravations. En homéopathie, dans le siècle dernier, quand j'ai appris l'homéopathie avec mes maîtres, on apprenait à tester les gens grâce aux aggravations homéopathiques. Je me souviens de Courbon qui suivait le cours avec moi de M. Seine à Lausanne. M. Seine avait demandé à Courbon « Est-ce que tu veux bien venir soigner ma femme ? Parce que j'arrive pas, ça m'emmerde de la soigner. Tu veux pas la soigner ?» Et Courbon, qui était un être d'exception quand même, faut pas déconner, qui était un grand maître à mes yeux, le lendemain, quand j'ai revu, ils ont mangé ensemble avec nous, il y a M. Seine qui dit « Mais tu es extraordinaire, hein ? Tu l'as même pas aggravé. » Vous comprenez ? Le siècle dernier, on soignait des gens souvent en donnant un produit qui entraînait une aggravation, mais le fait d'aggraver les gens nous permettait souvent de choisir le bon similimum. D'accord ?
Et comment on peut aggraver un symptôme avec l'homéopathie ?
Tu aggraves la cause, par exemple, d'un monsieur qui vient avec une spondylarthrite ankylosante.
On reprend cet exemple.
On reprend l'exemple. Il revient 2-3 jours après en disant « Ça va pas, hein, je vais pas bien, je transpire de tous les coups, de tous les côtés, j'ai mal partout, je suis fatigué, voire même je suis un peu angoissé. » En fait, on est passé à côté de la cause peut-être première. Il a bouffé de la cortisone pendant 10 ans avant et on est passé à côté.
Alors attends,
veut dire quoi ? Voilà. Ça veut dire qu'on a soulevé, un antécédent précédent qui a été peut-être la véritable cause de sa pathologie.
Ce que tu veux cortisone. Dire, c'est que le patient qui a sa spondylarthrite ankylosante depuis longtemps, à un moment donné, il a pris de la cortisone. Cette cortisone est devenue une toxine et que l'effet secondaire est dû à la cortisone quand on cherche à traiter la spondylarthrite.
Tout à fait. C'est ça l'aggravation. Alors on est des fois très content d'aggraver les gens. C'est pas méchant ce que je viens de dire. Très content d'aggraver les gens, ça veut dire qu'ils t'apportent un symptôme et tu dis « Ah, j'ai oublié ça ». Ouais. Tant que je le souhaite.
Il ne faut pas jouer avec l'homéopathie non plus quand on, a, quand on manque de connaissances.
L'homéopathie peut être beaucoup plus dangereuse que l'allopathie, que toutes les autres médecines.
Je discutais avec une amie homéopathe il n'y a pas longtemps. Elle s'offusque que l'homéopathie ne soit pas soumise à prescription, puisqu'on peut faire un peu n'importe quoi en prenant à la pharmacie. Tu es d'accord avec ça ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que ça, c'est l'homéopathie du siècle dernier. Et ce n'est plus l'homéopathie marchandise ou des SCH ou des intoxines d'homéopathie. L'homéopathie que je fais, ça fait bien longtemps que je ne prescris pas de granules d'homéopathie en pharmacie. Ça fait bien longtemps.
Oui, parce que c'est une homéopathie issue des toxiques.
C'est une homéopathie. Les gens râlent parce que c'est plus remboursé, mais bon, on ne va plus faire la même homéopathie que M. Hahnemann, qui a 2 siècles. Ça suffit.
Oui, bien sûr.
On a eu les toxiques, on a eu les cortisones, on a eu l'antibiotique, on a eu M. Elmiger, les vaccinations. On a eu tout ça qui a modifié totalement l'être humain que l'on a maintenant.
Je comprends.
On donnait arsenicum album. Maintenant, pour moi, c'est complètement hors sujet. Tu comprends ce que je veux dire ?
Ah ouais.
C'est bien beau de chercher un ensemble de symptômes pour donner la bonne dilution de arsenicum album, mais il vaut mieux nettoyer la cortisone, les antibiotiques, l'accouchement, l'ocytocine, qui modifie l'être humain.
Ouais. Donc tu prônes, si je comprends bien, une homéopathie qui va nettoyer, donc qui va permettre au corps d'enlever, ce qui est une vision très médicale et très ostéo. On va rendre le pouvoir à l'homéostasie.
Tout à fait.
Par le nettoyage.
L'auto-guérison.
Une image que tu donnes souvent et que j'aime beaucoup, c'est on voit la ville de Marseille quand les poubelles débordent, c'est le chantier.
Ouais.
On élimine, on enlève les poubelles et puis la ville circule mieux. C'est un peu l'image que tu donnes de temps en temps.
Il faut nettoyer les poubelles des gens.
Il faut nettoyer les poubelles des gens.
Oui, tout à fait. On a tous des poubelles, hein, d'ailleurs.
Quel est ton...
Même si on fait attention, même si on mange bien, même si c'est difficile de ne pas avoir une poubelle.
Du coup, quel est ton avis sur l'homéopathie uniciste ?
Eh bien, j'en fais plus depuis à peu près 40 ans. Un jour, j'ai fait de l'homéopathie de répertorisation pendant des années. J'en étais bien content. Hein. J'ai même usé le fameux bouquin qui s'appelle Kent et les répertorisations. J'en ai utilisé au moins usé 2 ou 3. Et le troisième, il est là, il est encore en vie.
Je l'ai
vu. Les deux autres, ils sont... Je les ai tellement utilisés que il y en a un, je l'ai foutu à la poubelle parce que on voyait plus les pages, etc. Parce que répertorier, c'est énormément de travail.
Okay.
Et moi, je suis un énervé. Il faut que ça aille vite.
C'est une homéopathie de fainéant, finalement.
Mais bien sûr.
Et c'est vertueux, je dis ça, c'est vertueux.
Bien sûr. Moi, je suis incapable de faire une homéopathie de répertorisation maintenant. Je suis incapable. En plus, je ne l'ai pas appris. Et quand je fais un cours ici... Je ne fais pas un cours sur chamomilla, calcarea carbonica, bien qu'on en parle, hein, ou arsenicum album ou quoi. Les gens, j'espère, ne viennent plus chercher ça. Et moi, d'ailleurs, je suis incapable d'être un bon homéopathe traditionnel, hahnemannien, avec arsenicum album en 12 CH.
Alors, je me considère comme chanceux parce que tu nous avais parlé de l'achésis.
Et oui, l'achésis.
Je me souviens d'un mime de ta part qui était sympa. Et donc, c'est quoi une femme l'achésis ?
Alors, l'achésis, c'est ce qui est abominable. C'est-à-dire que souvent, quand elle était dans la salle d'attente, je savais déjà, quand elle était déjà là, je me disais, oh là là, la pauvre femme. Une l'achésis, c'est quelqu'un qui ne supporte pas le médecin, que tout est abominable, tout est affreux, que son col est serré, que sa ceinture de son pantalon est trop serré, que tout va mal, qui est...
Elle a chaud, tout a besoin de sortir.
Tout va mal. Et c'est vrai que c'était pas toujours évident de supporter une l'achésis. Parce que c'est vrai que je supporte pas tout le monde bien. Et je préfère une non-l'achésis, une belle, jolie, jeune femme, plutôt qu'une l'achésis qui m'a fait chier pendant une partie de ma vie.
Eh bien, écoute, on va passer au petit jeu et rester sur cette anecdote.
Oui.
Jean, est-ce que tu as une anecdote concernant des soins, par exemple un enfant que tu as pu avoir au cabinet, une anecdote sympa à nous raconter ? puisque tu es bourré d'anecdotes. J'ai eu la chance d'en avoir plein. Mais
dans mon cours, on me dit, fais attention, tu en es en train de parler de la cinquième parenthèse de parenthèse de parenthèse. Et donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu mon grand défaut. Mais bon, la parenthèse, c'est quoi souvent ? C'est expliquer et raconter l'histoire d'eux. C'est ça qui est intéressant. Alors, tout à l'heure, j'ai raconté une histoire d'une gosse qui était venue avec un crâne assez gros, comme ça s'appelle, une hydrocéphalie. Et un retard d'acquisition à l'école, ça posait problème. Et sa petite sœur a la même chose. Et donc, toute la famille, sauf l'aîné, avait mangé du salbutamol, qui est un pseudo-adrénaline.
La ventoline, quoi.
La ventoline. Alors, c'est une anecdote parce que, en fait, on se fait peur hein, quand on soigne les autres. Hein. Et donc, moi, j'aime pas tellement rentrer. Et donc, je mets la ventoline sur le thorax de ce patient et le gosse fait une pseudo-crise d'épilepsie.
Voilà, c'est instantané. Hein. Tu poses le florin, là, on te voit pas parce qu'à la vidéo, mais tu poses le florin sur le sternum.
Il a fait une crise d'aggravation.
Okay.
Et on n'a fait qu'une thérapeutique, une seule jour, une quelques secondes. On a fait un super gris-gris à mettre sur le thorax de cet enfant, qui du jour au lendemain a été amélioré. Les parents m'ont retéléphoné quelques mois après. Il est devenu un enfant qui n'avait plus de retard. Le fait de donner le truc, l'impulsion, ça a agi tout de suite.
Mais tu l'as mis en aggravation, du coup, là.
Eh bien oui, c'est affreux. Ouais. Mais bon, ils m'en ont pas tant voulu.
Ok, et je te remercie. Je vais terminer par un petit exercice. Je vais te demander une réponse courte, puisque ce n'est pas ton
c'est
habitude.
Et justement, c'est pas possible.
Je vais te demander, en deux phrases, quelle est la vérité qui te dérange ? Est-ce qu'il y a une vérité qui te dérange ? En réponse courte, Jean, hein, je vous le jeu.
Alors, qu'est-ce que c'est d'abord une vérité ? C'est quoi la vérité ? C'est quoi ?
Je te pose la question.
Une vérité qui me dérange ? Mais toutes les vérités me dérangent.
Ah bah, ça c'est suffit ? Très bonne réponse. Bah, je te remercie.
Parce que la vérité, c'est pas évident hein, d'accepter ça. Les grandes vérités des autres ne sont pas les vérités des autres, de moi et de toi. Donc les vérités, il faut avoir peur. Les vérités sont dangereuses.
Donc il faut avoir peur de la vérité. Ben, je te remercie, c'est une très belle conclusion.
D'accord.
Je ne sais pas si je suis d'accord, mais ce qui est important, c'est ton point de vue. Et il est très intéressant. Il permet, de ce que je disais tout à l'heure, d'ouvrir des perspectives, de voir une autre vision. Et ce n'est pas en restant tout seul chez soi qu'on progresse.
Mon but,
c'est de progresser. C'est pour ça que je rencontre des gens comme toi depuis maintenant nombreuses années. Donc, un grand merci.
C'est moi qui te remercie.
Et puis, on se dit...
Ta continuité de ton travail, c'est ça qui est bien. C'est important.
Merci, Jean. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Global Thinking.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Retrouvez l'actualité et les formations de Jean Marchandise sur dsth.ch. Vous êtes de plus en plus nombreux à partager, que ce soit via Apple Podcasts, Spotify, sur vos comptes Instagram, Facebook. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Si vous voulez me contacter, rappelez-vous sur mon site internet globalthinking.fr. À très vite.